New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Section 7 de Salammbô de Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Première partie du chapitre 7. Hamilcar Barca. L'annonciateur des lunes, qui veillait toutes les nuits au haut du temple d'Eshmoun pour signaler avec sa trompette les agitations de l'astre, aperçut un matin, du côté de l'Occident, quelque chose de semblable à un oiseau frôlant de ses longues ailes la surface de la mer. C'était un navire à trois rangs de rames. Il y avait à la proue un cheval sculpté. Le soleil se levait. L'annonciateur des lunes mit sa main devant les yeux. Puis, saisissant à plein bras son clairon, il poussa sur Carthage un grand cri d'airain. De toutes les maisons, des gens sortirent. On ne voulait pas en croire les paroles. On se disputait. Le môle était couvert de peuple. Enfin, on reconnut la trirème d'Hamilcar. Elle s'avançait d'une façon orgueilleuse et farouche, l'antenne toute droite, la voile bombée dans la longueur du mât, en fendant l'écume autour d'elle. Ses gigantesques avirons battaient l'eau en cadence. De temps à autre, l'extrémité de sa quille, faite comme un soc de charrue, apparaissait, et sous l'éperon qui terminait sa proue, le cheval à tête d'ivoire, en dressant ses deux pieds, semblait courir sur les plaines de la mer. Autour du promontoire, comme le vent avait cessé, la voile tomba, et l'on aperçut auprès du pilote un homme debout, tête nue. C'était lui, le suffète Hamilcar. Il portait autour des flancs des lames de fer qui reluisaient. Un manteau rouge s'attachant à ses épaules laissait voir ses bras. Deux perles très longues pendaient à ses oreilles et il baissait sur sa poitrine sa barbe noire touffue. Cependant, la galère, ballottée au milieu des rochers, côtoyait le môle et la foule la suivait sur les dalles en criant « Salut ! Bénédiction ! Œil de Camon ! Ah, délivre-nous ! C'est la faute des riches. Ils veulent te faire mourir. Prends garde à toi, Barca. » Il ne répondait pas, comme si la clameur des océans et des batailles l'eût complètement assourdi. Mais, quand il fut sous l'escalier qui descendait de l'acropole, Hamilcar releva la tête et, les bras croisés, il regarda le temple d'Eshmoun. Sa vue monta plus haut encore, dans le grand ciel pur. D'une voix âpre, il cria un ordre à ses matelots. La trirème bondit. Elle érafla l'idole établie à l'angle du môle pour arrêter les tempêtes. Et dans le port marchand plein d'immondices, d'éclats de bois et d'écorces de fruits, elle refoulait, éventrait les autres navires amarrés à des pieux et finissant par des mâchoires de crocodiles. Le peuple accourait. Quelques-uns se jetèrent à la nage. Déjà, elle se trouvait au fond, devant la porte hérissée de clous. La porte se leva et la trirème disparut sous la voûte profonde. Le port militaire était complètement séparé de la ville. Quand des ambassadeurs arrivaient, il leur fallait passer entre deux murailles dans un couloir qui débouchait à gauche devant le temple de Camon. Cette grande place d'eau, ronde comme une coupe, avait une bordure de quai où étaient bâties des loges abritant les navires. En avant de chacune d'elles montaient deux colonnes portant à leur chapiteau des cornes d'Amon, ce qui formait une continuité de portiques tout autour du bassin. Au milieu, dans une île, s'élevait une maison pour le suffète de la mer. L'eau était si limpide que l'on apercevait le fond pavé de cailloux blancs. Le bruit des rues n'arrivait pas jusque-là, et Hamilcar, en passant, reconnaissait les trirèmes qu'il avait autrefois commandés. Il n'en restait plus qu'une vingtaine peut-être, à l'abri, par terre, penchée sur le flanc, ou droite sur la quille, avec des poupes très hautes et des proues bombées, couvertes de dorures et de symboles mystiques. Les chimères avaient perdu leurs ailes, les dieux pataquès leurs bras, les taureaux leurs cornes d'argent, et toutes à moitié dépeintes, inertes, pourries, mais pleines d'histoires et exhalant encore la senteur des voyages, comme des soldats mutilés qui revoient leur maître, elles semblaient lui dire « C'est nous, c'est nous, et toi aussi tu es vaincu !» Nul, hormis le suffète de la mer, ne pouvait entrer dans la maison amirale. Tant qu'on n'avait pas la preuve de sa mort, on le considérait comme existant toujours. Les anciens évitaient par là un maître de plus, et ils n'avaient pas manqué pour Hamilcar d'obéir à la coutume. Le suffète s'avança dans les appartements déserts. À chaque pas, il retrouvait des armures, des meubles, des objets connus qui l'étonnaient cependant. Et même sous le vestibule, il y avait encore, dans une cassolette, la cendre des parfums allumés au départ pour conjurer Melkar. Ce n'était pas ainsi qu'il espérait revenir. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu se déroula dans sa mémoire. Les assauts, les incendies, les légions, les tempêtes, Drépanum, Syracuse, Lilibé, le mont Etna, le plateau d'Eryx, 5 ans de bataille, jusqu'au jour funeste où, déposant les armes, on avait perdu la Sicile. Puis, il revoyait des bois de citronniers, des pasteurs avec des chèvres sur des montagnes grises, et son cœur bondissait à l'imagination d'une autre Carthage établie là-bas. Ses projets, ses souvenirs bourdonnaient dans sa tête, encore étourdie par le tangage du vaisseau. Une angoisse l'accablait, et, devenu faible tout à coup, il sentit le besoin de se rapprocher des dieux. Alors, il monta au dernier étage de sa maison. Puis, ayant retiré d'une coquille d'or suspendue à son bras une spatule garnie de clous, il ouvrit une petite chambre ovale. De minces rondelles noires, encastrées dans la muraille et transparentes comme du verre, l'éclairaient doucement. Entre les rangs de ces disques égaux, des trous étaient creusés, pareils à ceux des urnes dans les columbariums. Ils contenaient chacun une pierre ronde, obscure et qui paraissait très lourde. Des gens d'un esprit supérieur, seuls, honoraient ces abadirs tombés de la lune. Par leur chute, ils signifiaient les astres, le ciel, le feu. Par leur couleur, la nuit ténébreuse, et par leur densité, la cohésion des choses terrestres. Une atmosphère étouffante emplissait ce lieu mystique. Du sable marin, que le vent avait poussé sans doute à travers la porte, blanchissait un peu les pierres rondes posées dans les niches. Hamilcar, du bout de son doigt, les compta les unes après les autres. Puis il se cacha le visage sous un voile de couleur safran et, tombant à genoux, il s'étendit par terre, les deux bras allongés. Le jour extérieur frappait contre les feuilles de lattier noir. Des arborescences, des monticules, des tourbillons, de vagues animaux se dessinaient dans leur épaisseur diaphane. Et la lumière arrivait, effrayante et pacifique cependant, comme elle doit être par derrière le soleil, dans les mornes espaces des créations futures. Il s'efforçait à bannir de sa pensée toutes les formes, tous les symboles et les appellations des dieux, afin de mieux saisir l'esprit immuable que les apparences dérobaient. Quelque chose des vitalités planétaires le pénétrait, tandis qu'il sentait pour la mort et pour tous les hasards un dédain plus savant et plus intime. Quand il se releva, il était plein d'une intrépidité sereine, invulnérable à la miséricorde, à la crainte, et comme sa poitrine étouffait, il alla sur le sommet de la tour qui dominait Carthage. La ville descendait en se creusant par une courbe longue, avec ses coupoles, ses temples, ses toits d'or, ses maisons, ses touffes de palmiers, çà et là, ses boules de verre d'où jaillissaient des feux, et les remparts faisaient comme la gigantesque bordure de cette corne d'abondance qui s'épanchait vers lui. Il apercevait en bas les ports, les places, l'intérieur des cours, le dessin des rues, les hommes tout petits presque à ras des dalles. Ah, si Hannon n'était pas arrivé trop tard le matin des îles Agathe, ses yeux plongèrent dans l'extrême horizon et il tendit du côté de Rome ses deux bras frémissants. La multitude occupait les degrés de l'acropole. Sur la place de Khamon, on se poussait pour voir le suffète sortir. Les terrasses peu à peu se chargeaient de monde. Quelques-uns le reconnurent, on le saluait. Il se retira, afin d'irriter mieux l'impatience du peuple. Hamilcar trouva en bas, dans la salle, les hommes les plus importants de son parti, Istatène, Subeldia, Ictamon, Gheoubas et d'autres. Ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé depuis la conclusion de la paix. L'avarice des anciens, le départ des soldats, leur retour, leurs exigences, la capture de Giscon, le vol du Zainf, Utique secouru, puis abandonné. Mais aucun n'osa lui dire les événements qui le concernaient. Enfin, on se sépara pour se revoir pendant la nuit à l'assemblée des anciens dans le temple de Moloch. Il venait de sortir quand un tumulte s'éleva en dehors à la porte. Malgré les serviteurs, quelqu'un voulait entrer et comme le tapage redoublait, Hamilcar commanda d'introduire l'inconnu. On vit apparaître une vieille négresse cassée, ridée, tremblante, l'air stupide et enveloppée jusqu'aux talons dans de larges voiles bleues. Elle s'avança en face du suffète. Ils se regardèrent l'un l'autre quelque temps. Tout à coup, Hamilcar tressaillit. Sur un geste de sa main, les esclaves s'en allèrent. Alors, lui faisant signe de marcher avec précaution, il l'entraîna par le bras dans une chambre lointaine. La négresse se jeta par terre, à ses pieds, pour les baiser. Il la releva brutalement. « Où l'as-tu laissée ?» Iddibal. « Là-bas, maître. » Et en se débarrassant de ses voiles, avec sa manche, elle se frotta la figure. La couleur noire, le tremblement sénile, la taille courbée, tout disparut. C'était un robuste vieillard dont la peau semblait tannée par le sable, le vent et la mer. Une houppe de cheveux blancs se levait sur son crâne comme l'aigrette d'un oiseau. Et, d'un coup d'œil ironique, il montrait par terre le déguisement tombé. « Tu as bien fait, Iddibal, c'est bien !» Puis, comme le perçant de son regard aigu. « Aucun encore ne se doute !» Le vieillard lui jura, par les kabyres, que le mystère était gardé. Ils ne quittaient pas leur cabane à 3 jours d'Adrumète, rivage peuplé de tortues, avec des palmiers sur la dune. « Et, selon ton ordre, ô maître, je lui apprends à lancer des javelots et à conduire des attelages. »« Il est fort, n'est-ce pas ?»« Oui, maître, et intrépide aussi. Il n'a peur ni des serpents, ni du tonnerre, ni des fantômes. Il court pieds nus, comme un pâtre, sur le bord des précipices. Parle, parle ! Il invente des pièges pour les bêtes farouches. L'autre lune, croirais-tu, il a surpris un aigle. Il le traînait, et le sang de l'oiseau et le sang de l'enfant s'éparpillaient dans l'air en larges gouttes, telles que des roses emportées. La bête, furieuse, l'enveloppait du battement de ses ailes. Il l'étreignait contre sa poitrine, et à mesure qu'elle agonisait, ses rires redoublaient, éclatants et superbes comme des chocs d'épée. Hamilcar baissait la tête, ébloui par ces présages de grandeur. Mais, depuis quelque temps, une inquiétude l'agite. Il regarde au loin les voiles qui passent sur la mer. Il est triste, il repousse le pain, il s'informe des dieux, et il veut connaître Carthage. « Non, non, pas encore !» s'écria le suffète. Le vieil esclave parut savoir le péril qui effrayait Hamilcar, et il reprit. « Comment le retenir ? Il me faut déjà lui faire des promesses, et je ne suis venu à Carthage que pour lui acheter un poignard à manche d'argent avec des perles tout autour. » Puis il conta qu'ayant aperçu le suffète sur la terrasse, il s'était donné au gardien du port pour une des femmes de Salammbô, afin de pénétrer jusqu'à lui. Hamilcar resta longtemps comme perdu dans ses délibérations. Enfin, il dit « Demain, tu te présenteras à Mégara, au coucher du soleil, derrière les fabriques de pourpre, en imitant par 3 fois le cri d'un chacal. Si tu ne me vois pas, le premier jour de chaque lune, tu reviendras à Carthage. N'oublie rien, aime-le. Maintenant, tu peux lui parler d'Hamilcar. » L'esclave reprit son costume et ils sortirent ensemble de la maison et du port. Hamilcar continua seul à pied, sans escorte, car les réunions des anciens étaient, dans les circonstances extraordinaires, toujours secrètes, et l'on s'y rendait mystérieusement. D'abord, il longea la face orientale de l'acropole, passa ensuite par le marché aux herbes, les galeries de Kinsido, le faubourg des parfumeurs. Les rares lumières s'éteignaient, les rues plus larges se faisaient silencieuses, puis des ombres glissèrent dans les ténèbres. Elles le suivaient, d'autres survinrent, et toutes se dirigeaient comme lui du côté des Mappales. Le temple de Moloch était bâti au pied d'une gorge escarpée, dans un endroit sinistre. On n'apercevait d'en bas que de hautes murailles montant indéfiniment, telles que les parois d'un monstrueux tombeau. La nuit était sombre. Un brouillard grisâtre semblait peser sur la mer. Elle battait contre la falaise avec un bruit de râles et de sanglots. Et des ombres peu à peu s'évanouissaient, comme si elles eussent passé à travers les murs. Mais, sitôt qu'on avait franchi la porte, on se trouvait dans une vaste cour quadrangulaire que bordaient des arcades. Au milieu se levait une masse d'architecture à huit pans égaux. Des coupoles la surmontaient en se tassant autour d'un second étage qui supportait une manière de rotonde, d'où s'élançait un cône à courbe rentrante, terminé par une boule au sommet. Des feux brillaient dans des cylindres en filigrane, emmanchés à des perches que portaient des hommes. Ces lueurs vacillaient sous les bourrasques du vent et rougissaient les peignes d'or, fixant à la nuque leurs cheveux tressés. Ils couraient, s'appelaient pour recevoir les anciens. Sur les dalles, de place en place, étaient accroupis, comme des sphinx, des lions énormes, symboles vivants du soleil dévorateur. Ils sommeillaient, les paupières entrecloses. Mais, réveillés par les pas et par les voix, ils se levaient lentement, venaient vers les anciens, qu'ils reconnaissaient à leur costume, se frottaient contre leurs cuisses en bombant le dos avec des bâillements sonores. La vapeur de leur haleine passait sur la lumière des torches. L'agitation redoubla. Des portes se fermèrent. Tous les prêtres s'enfuirent et les anciens disparurent sous les colonnes qui faisaient autour du temple un vestibule profond. Elles étaient disposées de façon à reproduire par leur rang circulaire, compris les uns dans les autres, la période saturnienne contenant les années les mois les jours, et se touchaient à la fin contre la muraille du sanctuaire. C'était là que les anciens déposaient leurs bâtons en cornes de narval, car une loi, toujours observée, punissait de mort celui qui entrait à la séance avec une arme quelconque. Plusieurs portaient au bas de leurs vêtements une déchirure arrêtée par un galon de pourpre, pour bien montrer qu'en pleurant la mort de leurs proches, ils n'avaient point ménagé leurs habits, et ce témoignage d'affliction empêchait la fente de s'agrandir. D'autres gardaient leur barbe enfermée dans un petit sac de peau violette que deux cordons attachaient aux oreilles. Tous s'abordèrent en s'embrassant poitrine contre poitrine. Ils entouraient Hamilcar, ils le félicitaient. On aurait dit des frères qui revoient leurs frères. Ces hommes étaient généralement trapus, avec des nez recourbés comme ceux des colosses assyriens. Quelques-uns, cependant, par leurs pommettes plus saillantes, leur taille plus haute et leurs pieds plus étroits trahissaient une origine africaine, des ancêtres nomades. Ceux qui vivaient continuellement au fond de leur comptoir avaient le visage pâle. D'autres gardaient sur eux comme la sévérité du désert, et d'étranges joyaux scintillaient à tous les doigts de leurs mains, hâlés par des soleils inconnus. On distinguait les navigateurs au balancement de leur démarche, tandis que les hommes d'agriculture sentaient le pressoir, les herbes sèches et la sueur de mulet. Ces vieux pirates faisaient labourer des campagnes, ces ramasseurs d'argent équipaient des navires, ces propriétaires de culture nourrissaient des esclaves exerçant des métiers. Tous étaient savants dans les disciplines religieuses, experts en stratagèmes, impitoyables et riches. Ils avaient l'air fatigués par de longs soucis. Leurs yeux pleins de flammes regardaient avec défiance, et l'habitude des voyages et du mensonge, du trafic et du commandement, donnait à toute leur personne un aspect de ruse et de violence, une sorte de brutalité discrète et convulsive. D'ailleurs, l'influence du dieu les assombrissait. Ils passèrent d'abord par une salle voûtée qui avait la forme d'un œuf. 7 portes, correspondant aux 7 planètes, étalaient contre sa muraille 7 carrés de couleurs différentes. Après une longue chambre, ils entrèrent dans une autre salle, pareille. Un candélabre, tout couvert de fleurs ciselées, brûlait au fond, et chacune de ses 8 branches en or portait dans un calice de diamant une mèche de byssus. Il était posé sur la dernière des longues marches qui allaient vers un grand autel, terminé aux angles par des cornes d'airain. 2 escaliers latéraux conduisaient à son sommet aplati. On n'en voyait pas les pierres. C'était comme une montagne de cendres accumulées, et quelque chose d'indistinct fumait dessus lentement. Au-delà, plus haut que le candélabre, et bien plus haut que l'autel, se dressait le Moloch, tout en fer, avec sa poitrine d'homme où bâillaient des ouvertures. Ses ailes ouvertes s'étendaient sur le mur. Ses mains allongées descendaient jusqu'à terre. 3 pierres noires, que bordait un cercle jaune, figuraient 3 prunelles à son front. Et, comme pour beugler, il levait dans un effort terrible sa tête de taureau. Autour de l'appartement étaient rangés des escabeaux d'ébène. Derrière chacun d'eux, une tige en bronze, posant sur 3 griffes, supportait un flambeau. Toutes ces lumières se reflétaient dans les losanges de nacre qui pavaient la salle. Elle était si haute que la couleur rouge des murailles, en montant vers la voûte, se faisait noire, et les 3 yeux de l'idole apparaissaient tout en haut, comme des étoiles à demi perdues dans la nuit. Les anciens s'assirent sur les escabeaux d'ébène, ayant mis par-dessus leur tête la queue de leur robe. Ils restaient immobiles, les mains croisées dans leurs larges manches, et le dallage de nacre semblait un fleuve lumineux qui, ruisselant de l'autel vers la porte, coulait sous leurs pieds nus. Les 4 pontifes se tenaient au milieu, dos à dos, sur 4 sièges d'ivoire formant la croix. Le grand prêtre d'Eshmoun en robe d'hyacinthe, le grand prêtre de Tanit en robe de lin blanc, le grand prêtre de Khamon en robe de laine fauve et le grand prêtre de Moloch en robe de pourpre. Hamilcar s'avança vers le candélabre. Il tourna tout autour, en considérant les mèches qui brillaient, puis jeta sur elles une poudre parfumée. Des flammes violettes parurent à l'extrémité des branches. Alors, une voix aiguë s'éleva. Une autre y répondit. Et les 100 anciens, les 4 pontifes, et Hamilcar debout, tous à la fois, entonnèrent un hymne. Et, répétant toujours les mêmes syllabes et renforçant les sons, leurs voix montèrent, éclatèrent, devinrent terribles, puis, d'un seul coup, se turent. On attendit quelque temps. Enfin, Hamilcar tira de sa poitrine une petite statuette à 3 têtes, bleue comme du saphir, et il la posa devant lui. C'était l'image de la vérité, le génie même de sa parole. Puis il la replaça dans son sein, et tous, comme saisis d'une colère soudaine, crièrent « Ce sont tes bons amis les barbares ! Traîtres, infâmes ! Tu reviens pour nous voir périr, n'est-ce pas ? Laisse-le parler ! Non, non !» Ils se vengeaient de la contrainte où le cérémonial politique les avait tout à l'heure obligés. Bien qu'ils eussent souhaité le retour d'Hamilcar, ils s'indignaient maintenant de ce qu'ils n'avaient point prévenu leur désastre, ou plutôt, ne les avaient pas subis comme eux. Quand le tumulte fut calmé, le pontife de Moloch se leva. « Nous te demandons pourquoi tu n'es pas revenu à Carthage. »« Que vous importe ?» répondit dédaigneusement le suffète. Leurs cris redoublèrent. « De quoi m'accusez-vous ? J'ai mal conduit la guerre, peut-être. » Vous avez vu l'ordonnance de mes batailles, vous autres qui laissez commodément à des barbares. Assez, assez !» Il reprit d'une voix basse pour se faire mieux écouter. « Oh, cela est vrai, je me trompe, lumière des Baals. Il en est parmi vous d'intrépides. Giscon, lève-toi !» Et, parcourant la marche de l'autel, les paupières à demi fermées, comme pour chercher quelqu'un, il répéta. Lève-toi, Giscon. Tu peux m'accuser, ils te défendront. Mais où est-il ? Puis, comme se ravisant. Ah ! Dans sa maison, sans doute, entouré de ses fils, commandant à ses esclaves, heureux, et comptant sur le mur les colliers d'honneur que la patrie lui a donnés. Il s'agitait avec des haussements d'épaules, comme flagellé par des lanières. Vous ne savez même pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et, sans se soucier de leurs clameurs, il disait qu'en abandonnant le suffète, c'était la République qu'on avait abandonnée. De même, la paix romaine, si avantageuse qu'elle leur parut, était plus funeste que 20 batailles. Quelques-uns applaudirent, les moins riches du conseil, suspects d'incliner toujours vers le peuple ou vers la tyrannie. Leurs adversaires, chefs des Sicites et administrateurs, en triomphaient par le nombre. Les plus considérables s'étaient rangés près d'Hannon, qui siégeait à l'autre bout de la salle, devant la haute porte, fermée par une tapisserie d'hyacinthe. Il avait peint avec du fard les ulcères de sa figure, mais la poudre d'or de ses cheveux lui était tombée sur les épaules, où elle faisait 2 plaques brillantes, et il paraissait blanchâtre, fins et crépus, comme de la laine. Des linges, imbibés d'un parfum gras qui dégouttelait sur les dalles, enveloppaient ses mains, et sa maladie, sans doute, avait considérablement augmenté, car ses yeux disparaissaient sous les plis de ses paupières. Pour voir, il lui fallait se renverser la tête. Ses partisans l'engageaient à parler, enfin, d'une voix rauque et hideuse. « Moins d'arrogance, Barca. Nous avons tous été vaincus. Chacun supporte son malheur. Résigne-toi. »« Apprends-nous plutôt, dit en souriant Hamilcar, comment tu as conduit tes galères dans la flotte romaine. » « J'étais chassé par le vent, » répondit Hannon. « Tu fais comme le rhinocéros qui piétine dans sa fiente. Tu étales ta sottise. Tais-toi. » Et ils commencèrent à s'incriminer sur la bataille des îles Agathe. Hannon l'accusait de n'être pas venu à sa rencontre. « Mais c'eût été dégarnir Eryx. Il fallait prendre le large. Qui t'empêchait ?»« Ah, j'oubliais. Tous les éléphants ont peur de la mer. » Les gens d'Hamilcar trouvèrent la plaisanterie si bonne qu'ils poussèrent de grands rires. La voûte en retentissait comme si l'on eût frappé des tympanons. Hannon dénonça l'indignité d'un tel outrage, cette maladie lui étant survenue par un refroidissement au siège d'Hécatompyle et des pleurs coulaient sur sa face comme une pluie d'hiver sur une muraille en ruine. Hamilcar reprit. « Si vous m'aviez aimé autant que celui-là, il y aurait maintenant une grande joie dans Carthage. Combien de fois n'ai-je pas crié vers vous, et toujours vous me refusiez de l'argent ?»« Nous en avions besoin, » dirent les chefs des Sicites. « Et quand mes affaires étaient désespérées, nous avons bu l'urine des mulets et mangé les courroies de nos sandales. Quand j'aurais voulu que les brins d'herbe fussent des soldats et faire des bataillons avec la pourriture de nos morts, vous rappeliez chez vous ce qui me restait de vaisseau. « Nous ne pouvions pas tout risquer, » répondit Bad Baal, possesseur de mines d'or dans la Gétulie daricienne. « Que faisiez-vous cependant, ici, à Carthage, dans vos maisons, derrière vos murs ? Il y a des Gaulois sur les ridans qu'il fallait pousser, des Cananéens à Cyrène qui seraient venus, et, tandis que les Romains envoient à Ptolémée des ambassadeurs, « Ils nous vantent les Romains à présent !» quelqu'un lui cria. « Combien t'ont-ils payé pour les défendre ? Demande-le aux plaines du Brosium, aux ruines de Locre, de Métaponte et d'Héraclée. J'ai brûlé tous leurs arbres, j'ai pillé tous leurs temples, et jusqu'à la mort des petits-fils de leurs petits-fils. Hey, « Hé, tu déclames comme un rhéteur !» fit Capouras, un marchand très illustre. « Que veux-tu donc ?»« Je dis qu'il faut être plus ingénieux ou plus terrible. » Si l'Afrique entière rejette votre joug, c'est que vous ne savez pas, maître débile, l'attacher à ses épaules. Agathoclès, Régulus, Copio, tous les hommes hardis n'ont qu'à débarquer pour la prendre. Et quand les Libyens qui sont à l'Orient s'entendront avec les Numides qui sont à l'Occident, et que les nomades viendront du Sud et les Romains du Nord. Un cri d'horreur s'éleva. Oh ! Vous frapperez vos poitrines ! Vous vous roulerez dans la poussière et vous déchirerez vos manteaux. N'importe, il faudra s'en aller tourner la meule dans Subur et faire la vendange sur les collines du Latium. » Ils se battaient la cuisse droite pour marquer leur scandale, et les manches de leurs robes se levaient comme de grandes ailes d'oiseaux effarouchés. Hamilcar, emporté par un esprit, continuait, debout sur la plus haute marche de l'autel, frémissant, terrible. Il levait les bras, et les rayons du candélabre qui brûlait derrière lui passaient entre ses doigts comme des javelots d'or. « Vous perdrez vos navires, vos campagnes, vos chariots, vos lits suspendus et vos esclaves qui vous frottent les pieds. Les chacals se coucheront dans vos palais. La charrue retournera vos tombeaux. Il n'y aura plus que le cri des aigles et l'amoncellement des ruines. Tu tomberas, Carthage !» Les quatre pontifes étendirent leurs mains pour écarter l'anathème. Tous s'étaient levés. Mais le suffète de la mer, magistrat sacerdotal sous la protection du soleil, était inviolable tant que l'assemblée des riches ne l'avait pas jugé. Une épouvante s'attachait à l'autel. Ils reculèrent. Hamilcar ne parlait plus. L'œil fixe et la face aussi pâle que les perles de sa tiare, il haletait, presque effrayé par lui-même et l'esprit perdu dans des visions funèbres. De la hauteur où il était, tous les flambeaux sur les tiges de bronze lui semblaient une vaste couronne de feu, posée à ras des dalles. Des fumées noires s'en échappant montaient dans les ténèbres de la voûte. Le silence, pendant quelques minutes, fut tellement profond qu'on entendait au loin le bruit de la mer. Puis, les anciens se mirent à s'interroger. Leurs intérêts, leur existence, se trouvaient attaqués par les barbares. Mais on ne pouvait les vaincre sans le secours du suffète. Cette considération, malgré leur orgueil, leur fit oublier toutes les autres. On prit à part ses amis. Il y eut des réconciliations intéressées, des sous-entendus et des promesses. Hamilcar ne voulait plus se mêler d'aucun gouvernement. Tous le conjurèrent, ils le suppliaient. Et, comme le mot de trahison revenait dans leur discours, il s'emporta. Le seul traître, c'était le Grand Conseil, car l'engagement des soldats expirant avec la guerre, ils devenaient libres dès que la guerre était finie. Il exalta même leur bravoure et tous les avantages qu'on en pourrait tirer en les intéressant à la République par des donations, des privilèges. Alors, Magdassan, un ancien gouverneur des provinces, dit en roulant ses yeux jaunes « Vraiment, Barca, à force de voyager, tu es devenu un grec ou un latin, je ne sais quoi. Que parles-tu de récompense pour ces hommes? Périssent 10 000 barbares plutôt qu'un seul d'entre nous. » Les anciens approuvaient de la tête en murmurant. « Oui, faut-il tant se gêner? On en trouve toujours. » « Et l'on s'en débarrasse commodément, n'est-ce pas? On les abandonne, ainsi que vous avez fait en Sardaigne. On avertit l'ennemi du chemin qu'ils doivent prendre, comme pour ces Gaulois dans la Sicile. Ou bien, on les débarque au milieu de la mer. En revenant, j'ai vu le rocher tout blanc de leurs os. Quel malheur ! Fit impudemment Capouras. Est-ce qu'ils n'ont pas 100 fois tourné à l'ennemi ? S'exclamaient les autres. Hamilcar s'écria. Pourquoi donc, malgré vos lois, les avez-vous rappelés à Carthage ? Et quand ils sont dans votre ville, pauvres et nombreux, au milieu de toutes vos richesses, l'idée ne vous vient pas de les affaiblir par la moindre division. Ensuite, vous les congédiez avec leurs femmes et avec leurs enfants, tous, sans garder un seul otage. Comptiez-vous qu'ils s'assassineraient pour vous épargner la douleur de tenir vos serments? Vous les haïssez parce qu'ils sont forts. Vous me haïssez encore plus, moi, leur maître. Oh, je l'ai senti tout à l'heure, quand vous me baisiez les mains et que vous vous reteniez tous pour ne pas les mordre. Si les lions qui dormaient dans la cour fussent entrés en hurlant, la clameur n'eût pas été plus épouvantable. Mais le pontife d'Eshmoun se leva, et, les deux genoux l'un contre l'autre, les coudes au corps, tout droit, et les mains à demi ouvertes, il dit « Barca, Carthage a besoin que tu prennes contre les mercenaires le commandement général des forces puniques. « Je refuse !» répondit Hamilcar. « Nous te donnons pleine autorité !» crièrent les chefs des Sicites. « Non ! Sans aucun contrôle, sans partage, tout l'argent que tu voudras, tous les captifs, tout le butin, 50 zérètes de terre par cadavre d'ennemis. Non, non. parce qu'il est impossible de vaincre avec vous. Il en a peur, parce que vous êtes lâche, avare, ingrat, pusillanime et fou. Il les ménage, pour se mettre à leur tête, dit quelqu'un. Et revenir sur nous, dit un autre. Et du fond de la salle, Hannon hurla. « Il veut se faire roi !» Alors, ils bondirent, en renversant les sièges et les flambeaux. Leur foule s'élança vers l'autel. Ils brandissaient des poignards. Mais, fouillant sous ses manches, Hamilcar tira deux larges coutelas et à demi courbé, le pied gauche en avant, les yeux flamboyants, les dents serrées, il les défiait, immobiles sous le candélabre d'or. Ainsi, par précaution, ils avaient apporté des armes. C'était un crime. Ils se regardèrent les uns les autres, effrayés. Comme tous étaient coupables, chacun bien vite se rassura. Et peu à peu, tournant le dos au suffète, ils redescendirent, enragés d'humiliation. Pour la seconde fois, ils reculaient devant lui. Pendant quelque temps, ils restèrent debout. Plusieurs, qui s'étaient blessés les doigts, les portaient à leur bouche ou les roulaient doucement dans le bas de leur manteau. Et ils allaient s'en aller quand Hamilcar entendit ces paroles. « Hé ! C'est une délicatesse pour ne pas affliger sa fille !» Une voix plus haute s'éleva. « Sans doute, puisqu'elle prend ses amants parmi les mercenaires !» D'abord, il chancela. Puis ses yeux cherchèrent rapidement Shaabarim. Seul, le prêtre de Tanit était resté à sa place. Et Hamilcar n'aperçut de loin que son haut bonnet. Tous lui ricanaient à la face. À mesure qu'augmentait son angoisse, leur joie redoublait, et au milieu des huées, ceux qui étaient par derrière criaient « On l'a vu sortir de sa chambre, un matin du mois de Tammuz. C'est le voleur du Zaïnf, un homme très beau, plus grand que toi. » Il arracha sa tiare, un signe de sa dignité, sa tiare à 8 rangs mystiques dont le milieu portait une coquille d'émeraude, et à 2 mains, de toutes ses forces, il la lança par terre. Les cercles d'or en se brisant rebondirent et les perles sonnèrent sur les dalles. Ils virent alors, sur la blancheur de son front, une longue cicatrice. Elle s'agitait comme un serpent entre ses sourcils. Tous ses membres tremblaient. Il monta un des escaliers latéraux qui conduisait sur l'autel et il marchait dessus. C'était se vouer au Dieu, s'offrir en holocauste. Le mouvement de son manteau agitait les lueurs du candélabre plus bas que ses sandales, et la poudre fine, soulevée par ses pas, l'entourait comme un nuage jusqu'au ventre. Il s'arrêta entre les jambes du colosse d'airain. Il prit dans ses mains 2 poignées de cette poussière dont la vue seule faisait frissonner d'horreur tous les Carthaginois, et il dit « Par les 100 flambeaux de vos intelligences, par les 8 feux des kabyres, par les étoiles, les météores, et les volcans, par tout ce qui brûle, par la soif du désert et la salure de l'océan, par la caverne d'Adrumète et l'empire des armes, par l'extermination, par la cendre de vos fils et la cendre des frères de vos aïeux avec qui maintenant je confonds la mienne, vous, les sangs du conseil de Carthage, vous avez menti en accusant ma fille, et moi, Hamilcar Barca, « Suffète de la mer, chef des riches et dominateur du peuple, devant Moloch à tête de taureau, je jure !» On s'attendait à quelque chose d'épouvantable. Il reprit d'une voix plus haute et plus calme. « Que même, je ne lui en parlerai pas !» Les serviteurs sacrés, portant des peignes d'or, entrèrent, les uns avec des éponges de pourpre, les autres avec des branches de palmier. Ils relevèrent le rideau d'hyacinthe étendu devant la porte, et par l'ouverture de cet angle, on aperçut au fond des autres salles le grand ciel rose qui semblait continuer la voûte en s'appuyant à l'horizon sur la mer toute bleue. Le soleil, sortant des flots, montait. Il frappa tout à coup contre la poitrine du colosse d'airain, divisé en 7 compartiments que fermaient des grilles. Sa gueule aux dents rouges s'ouvrait dans un horrible bâillement. Ses naseaux énormes se dilataient. Le grand jour l'animait, lui donnait un air terrible et impatient, comme s'il avait voulu bondir au dehors pour se mêler avec l'astre, le dieu, et parcourir ensemble les immensités. Les flambeaux répandus par terre brûlaient encore, en allongeant, çà et là, sur les pavés de nacre, comme des taches de sang. Les anciens chancelaient, épuisés. Ils aspiraient à plein poumon la fraîcheur de l'air. La sueur coulait sur leurs faces livides. À force d'avoir crié, ils ne s'entendaient plus. Mais leur colère contre le suffète n'était point calmée. En manière d'adieu, ils lui jetaient des menaces. Et Hamilcar leur répondait « À la nuit prochaine, Barca, dans le temple d'Eshmoun. J'y serai. Nous te ferons condamner par les riches, et moi par le peuple. Prends garde de finir sur la croix. Et vous, déchirez dans les rues. » Dès qu'ils furent sur le seuil de la cour, ils reprirent un calme maintien. Leurs coureurs et leurs cochers les attendaient à la porte. La plupart s'en allèrent sur des mules blanches. Le suffète sauta dans son char, prit les rênes. Les deux bêtes, courbant leur encolure et frappant en cadence les cailloux qui rebondissaient, montèrent au grand galop toute la voie des Mappales et le vautour d'argent, à la pointe du timon, semblait voler tant le char passait vite. Fin de la section 7. Section 8 de Salammbô de Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise. Chapitre 7, deuxième partie. La route traversait un champ planté de longues dalles, aiguës par le sommet, telles que des pyramides, et qui portaient, entaillée à leur milieu, une main ouverte, comme si le mort couché dessous l'eût tendu vers le ciel pour réclamer quelque chose. Ensuite, étaient disséminées des cabanes en terre, en branchages, en claies de jonc, toutes de forme conique. De petits murs en cailloux, des rigoles d'eau vive, des cordes de sparterie, des haies de nopales, séparaient irrégulièrement ces habitations qui se tassaient de plus en plus en s'élevant vers les jardins du suffète. Mais Hamilcar tendait ses yeux sur une grande tour dont les trois étages faisaient trois monstrueux cylindres, le premier bâti en pierre, le second en briques et le troisième, tout en cèdre, supportant une coupole de cuivre sur 24 colonnes de genévriers, d'où retombaient, en manière de guirlandes, des chaînettes d'airain entrelacées. Ce haut édifice dominait les bâtiments qui s'étendaient à droite, les entrepôts, la maison de commerce, tandis que le palais des femmes se dressait au fond des cyprès, alignés comme deux murailles de bronze. Quand le char retentissant fut entré par la porte étroite, il s'arrêta sous un large hangar où des chevaux, retenus à des entraves, mangeaient des tas d'herbes coupées. Tous les serviteurs accoururent. Ils faisaient une multitude, ceux qui travaillaient dans les campagnes, par terreur des soldats, ayant été ramenés à Carthage. Les laboureurs, vêtus de peaux de bête, traînaient des chaînes rivées à leurs chevilles. Les ouvriers des manufactures de pourpre avaient les bras rouges comme des bourreaux. Les marins, des bonnets verts. Les pêcheurs, des colliers de corail. Les chasseurs, un filet sur l'épaule. Et les gens de Mégara, des tuniques blanches ou noires, des caleçons de cuir, des calottes de paille, de feutre ou de toile, selon leurs services ou leurs industries différentes. Par derrière se pressait une populace en haillons. Ils vivaient, ceux-là, sans aucun emploi, loin des appartements, dormaient la nuit dans les jardins, dévoraient les restes des cuisines, moisissures humaines qui végétaient à l'ombre du palais. Hamilcar les tolérait par prévoyance encore plus que par dédain. Tous, en témoignage de joie, s'étaient mis une fleur à l'oreille et beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vue. Mais des hommes coiffés comme des sphinx et munis de grands bâtons s'élancèrent dans la foule en frappant de droite et de gauche. C'était pour repousser les esclaves curieux de voir le maître afin qu'il ne fût pas assailli sous leur nombre et incommodé par leur odeur. Alors, tous se jetèrent à plat ventre en criant « Œil de Baal, que ta maison fleurisse !» Et entre ces hommes, ainsi couchés par terre dans l'avenue des cyprès, l'intendant des intendants, Abdalonim, coiffé d'une mitre blanche, s'avança vers Hamilcar, un encensoir à la main. Salammbô descendait l'escalier des galères. Toutes ses femmes venaient derrière elle, et, à chacun de ses pas, elle descendait aussi. Les têtes des négresses marquaient de gros points noirs la ligne des bandeaux à plaques d'or qui serraient le front des Romaines. D'autres avaient dans les cheveux des flèches d'argent, des papillons d'émeraude, ou de longues aiguilles étalées en soleil. Sur la confusion de ses vêtements blancs, jaunes et bleus, les anneaux, les agrafes, les colliers, les franges, les bracelets resplendissaient. Un murmure d'étoffes légères s'élevait. On entendait le claquement des sandales avec le bruit sourd des pieds nus posant sur le bois. Et, çà et là, un grand eunuque, qui les dépassait des épaules, souriait la face en l'air. Quand l'acclamation des hommes se fut apaisée, en se cachant le visage avec leurs manches, elles poussèrent ensemble un cri bizarre, pareil au hurlement d'une louve. Et il était si furieux et si strident qu'il semblait faire, du haut en bas, vibrer comme une lyre le grand escalier d'ébène tout couvert de femmes. Le vent soulevait leurs voiles, et les minces tiges des papyrus se balançaient doucement. On était au mois de Chébaz, en plein hiver. Les grenadiers en fleurs se bombaient sur l'azur du ciel, et, à travers les branches, la mer apparaissait avec une île au loin, à demi perdue dans la brume. Hamilcar s'arrêta en apercevant Salammbô. Elle lui était survenue après la mort de plusieurs enfants mâles. D'ailleurs, la naissance des filles passait pour une calamité dans les religions du soleil. Les dieux, plus tard, lui avaient envoyé un fils. Mais il gardait quelque chose de son espoir trahi et comme l'ébranlement de la malédiction qu'il avait prononcée contre elle. Salammbô, cependant, continuait à marcher. Des perles de couleurs variées descendaient en longues grappes de ses oreilles sur ses épaules et jusqu'aux coudes. Sa chevelure était crêpée de façon à simuler un nuage. Elle portait, autour du cou, de petites plaques d'or quadrangulaires représentant une femme entre deux lions cabrés. Et son costume reproduisait en entier l'accoutrement de la déesse. Sa robe d'hyacinthe, à manches larges, lui serrait la taille en s'évasant par le bas. Le vermillon de ses lèvres faisait paraître ses dents plus blanches et l'antimoine de ses paupières, ses yeux plus longs. Ses sandales, coupées dans un plumage d'oiseau, avaient des talons très hauts et elle était pâle extraordinairement, à cause du froid sans doute. Enfin, elle arriva près d'Hamilcar et sans le regarder, sans lever la tête, elle lui dit « Salut, œil de Balim, gloire éternelle, triomphe, loisir, satisfaction, richesse. Voilà longtemps que mon cœur était triste et la maison languissait. Mais le maître qui revient est comme Tammuz ressuscité. Et sous ton regard, ô Père, une joie, une existence nouvelle va partout s'épanouir. » Et prenant des mains de Taanach un petit vase oblong où fumait un mélange de farine, de beurre, de cardamone et de vin. « Bois à pleine gorge, dit-elle, la boisson du retour préparée par ta servante. » Il répliqua « Bénédiction sur toi. » Et il saisit machinalement le vase d'or qu'elle lui tendait. Cependant, il l'examinait avec une attention si âpre que Salammbô, troublée, balbutia. « On t'a dit, ô maître. »« Oui, je sais, » fit Hamilcar à voix basse. « Était-ce un aveu ? Ou parlait-elle des barbares ?» Et il ajouta quelques mots vagues sur les embarras publics qu'il espérait à lui seul dissiper. « Ô père !» s'exclama Salammbô, « tu n'effaceras pas ce qui est irréparable. » Il se recula, et Salammbô s'étonnait de son ébahissement, car elle ne songeait point à Carthage, mais au sacrilège dont elle se trouvait complice. Cet homme, qui faisait trembler les légions et qu'elle connaissait à peine, l'effrayait comme un dieu. Il avait deviné. Il savait tout. Quelque chose de terrible allait venir. Elle s'écria « Grâce !» Hamilcar baissa la tête, lentement. Bien qu'elle voulût s'accuser, elle n'osait ouvrir les lèvres. Cependant, elle étouffait du besoin de se plaindre et d'être consolée. Hamilcar combattait l'envie de rompre son serment. Il le tenait par orgueil ou par crainte d'en finir avec son incertitude. Et il la regardait en face, de toutes ses forces, pour saisir ce qu'elle cachait au fond de son cœur. Peu à peu, en haletant, Salammbô s'enfonçait la tête dans les épaules, écrasée par ce regard trop lourd. Il était sûr maintenant qu'elle avait failli dans l'étreinte d'un barbare. Il frémissait, il leva ses deux poings. Elle poussa un cri et tomba entre ses femmes qui s'empressèrent autour d'elle. Hamilcar tourna les talons. Tous les intendants le suivirent. On ouvrit les portes des entrepôts et il entra dans une vaste salle ronde où aboutissaient comme les rayons d'une roue à son moyeu de longs couloirs qui conduisaient vers d'autres salles. Un disque de pierre s'élevait au centre avec des balustres pour soutenir des coussins accumulés sur des tapis. Le suffète se promena d'abord à grands pas rapides. Il respirait bruyamment. Il frappait la terre du talon. Il se passait la main sur le front comme un homme harcelé par les mouches. Mais il secoua la tête et en apercevant l'accumulation de ses richesses, il se calma. Sa pensée, qu'attiraient les perspectives des couloirs, se répandait dans les autres salles pleines de trésors plus rares. Des plaques de bronze, des lingots d'argent et des barres de fer alternaient avec les saumons d'étain apportés des cassitérides par la mer ténébreuse. Les gommes du pays des Noirs débordaient de leurs sacs en écorce de palmier, et la poudre d'or, tassée dans des outres, fuyait insensiblement par les coutures trop vieilles. De minces filaments, tirés des plantes marines, pendaient entre les lins d'Égypte, de Grèce, de Trapobane et de Judée. Des madrépores, tels que de larges buissons, se hérissaient au pied des murs, et une odeur indéfinissable flottait, exhalaison des parfums, des cuirs, des épices et des plumes d'autruche liées en gros bouquets tout au haut de la voûte. Devant chaque couloir, des dents d'éléphant posées debout, en se réunissant par les pointes, formaient un arc au-dessus de la porte. Enfin, il monta sur le disque de pierre. Tous les intendants se tenaient les bras croisés, la tête basse, tandis qu'Abdalonim levait d'un air orgueilleux sa mitre pointue. Hamilcar interrogea le chef des navires. C'était un vieux pilote aux paupières éraillées par le vent, et des flocons blancs descendaient jusqu'à ses hanches comme si l'écume des tempêtes lui était restée sur la barbe. Il répondit qu'il avait envoyé une flotte par Gadès à Timiamata pour tâcher d'atteindre Ezion-Gaber en doublant la corne du sud et le promontoire des aromates. D'autres avaient continué dans l'ouest durant 4 lunes, sans rencontrer de rivage. Mais la proue des navires s'embarrassait dans les herbes. L'horizon retentissait continuellement du bruit des cataractes. Des brouillards couleur de sang obscurcissaient le soleil. Une brise, toute chargée de parfums, endormait les équipages. Et à présent, ils ne pouvaient rien dire, tant leur mémoire était troublée. Cependant, on avait remonté les fleuves des Scythes, pénétré en Colchide, chez les Ingriens, chez les Estiens, ravi dans l'archipel 1500 vierges et coulé bas tous les vaisseaux étrangers naviguant au-delà du cap Œstrimon pour que le secret des routes ne fût pas connu. Le roi Ptolémée retenait l'encens de Cheshbar. Syracuse, Elatia, la Corse et les îles n'avaient rien fourni. Et le vieux pilote baissa la voix pour annoncer qu'une trirème était prise à Rusicada par les Numides. « Car ils sont avec eux, maître. » Hamilcar fronça les sourcils. Puis il fit signe de parler au chef des voyages, enveloppé d'une robe brune sans ceinture et la tête prise dans une longue écharpe d'étoffe blanche qui, passant au bord de sa bouche, lui retombait par derrière sur l'épaule. Les caravanes étaient parties régulièrement à l'équinoxe d'hiver. Mais de 1500 hommes se dirigeant sur l'extrême Éthiopie avec d'excellents chameaux, des outres neuves et des provisions de toile peinte, un seul avait reparu à Carthage, les autres étant morts de fatigue ou devenus fous par la terreur du désert. Et il disait avoir vu, bien au-delà du Harouche noir, après les Atarantes et le pays des grands singes, d'immenses royaumes où les moindres ustensiles sont tout en or, un fleuve couleur de lait, large comme une mer, des forêts d'arbres bleus, des collines d'aromates, des monstres à figure humaine végétant sur les rochers et dont les prunelles, pour vous regarder, s'épanouissent comme des fleurs. Puis, derrière des lacs tout couverts de dragons, des montagnes de cristal qui supportent le soleil. D'autres étaient revenus de l'Inde avec des paons, du poivre et des tissus nouveaux. Quant à ceux qui vont acheter des chalcédoines par le chemin des Sirtes et le temple d'Ammon, sans doute ils avaient péri dans les sables. Les caravanes de la Gétulie et de Phazzana avaient fourni leur provenance habituelle, mais il n'osait à présent, lui, le chef des voyages, en équiper aucune. Hamilcar comprit. Les mercenaires occupaient la campagne. Avec un sourd gémissement, il s'appuya sur l'autre coude. Et le chef des métairies avait si peur de parler qu'il tremblait horriblement malgré ses épaules trapues et ses grosses prunelles rouges. Sa face, camarde comme celle d'un dogue, était surmontée d'un réseau en fil d'écorce. Il portait un ceintureau en peau de léopard avec tous les poils et où reluisaient deux formidables coutelas. Dès qu'Hamilcar se détourna, il se mit, en criant, à invoquer les Baals. Ce n'était pas sa faute, il n'y pouvait rien. Il avait observé les températures, les terrains, les étoiles, fait les plantations au solstice d'hiver, les élagages au décours de la lune, inspecté les esclaves, ménagé leurs habits. Hamilcar s'irritait de cette loquacité. Il claqua de la langue, et l'homme au coutelas d'une voix rapide. « Ah, maître, ils ont tout pillé, tout saccagé, tout détruit. 3000 pieds d'arbres sont coupés à Massala et à Ubada, les greniers défoncés, les citernes comblées. À Tédès, ils ont emporté 1500 gomores de farine. À Marazana, tué les pasteurs, mangé les troupeaux, brûlé ta maison, ta belle maison à poutres de cèdre où tu venais l'été. Les esclaves de Tuburbo, qui sciaient de l'orge, se sont enfuis vers les montagnes, et les ânes, les bardeaux, les mulets, les bœufs de Taormine, et les chevaux oranges, plus un seul, tous emmenés. C'est une malédiction, je n'y survivrai pas. » Il reprenait en pleurant. « Ah, si tu savais comme les celliers étaient pleins et les charrues reluisantes. Ah, les beaux béliers, ah, les beaux taureaux !» La colère d'Hamilcar l'étouffait, elle éclata. « Tais-toi. Suis-je donc un pauvre ? Pas de mensonge. Dites vrai. Je veux savoir tout ce que j'ai perdu, jusqu'au dernier cycle, jusqu'au dernier cab. Abdalonim, apporte-moi les comptes des vaisseaux, ceux des caravanes, ceux des métairies, ceux de la maison. Et si votre conscience est trouble, malheur sur vos têtes. Sortez !» Les intendants, marchant à reculons et les poings jusqu'à terre, sortirent. Abdalonim alla prendre au milieu d'un casier, dans la muraille, des cordes à nœuds, des bandes de toile ou de papyrus, des omoplates de moutons chargées d'écritures fines. Il les déposa au pied d'Hamilcar, lui mit entre les mains un cadre de bois garni de 3 fils intérieurs où étaient passées des boules d'or, d'argent et de cornes, et il commença. 192 maisons dans les Mappales, louées aux Carthaginois nouveaux à raison d'un béka par lune. « Non, c'est trop. Ménage les pauvres. Et tu écriras les noms de ceux qui te paraîtront les plus hardis, en tâchant de savoir s'ils sont attachés à la République. Après. » Abdalonim hésitait, surpris de cette générosité. Hamilcar lui arracha des mains les bandes de toile. « Qu'est-ce donc ? 3 palais autour de Khamon à 12 késitas par mois. Mais en va. Je ne veux pas que les riches me dévorent. » L'intendant des intendants, après un long salut, reprit. Prêtez à Tigilas, jusqu'à la fin de la saison, 2 kikars au denier 3, intérêt maritime. À Bar-Melkar, 1500 cycles sur le gage de 30 esclaves. Mais 12 sont morts dans les marais salins. Ce qu'il n'était pas robuste, dit en riant le suffète. N'importe, s'il a besoin d'argent, satisfais-le. Il faut toujours prêter, et à des intérêts divers, selon la richesse des personnes. Alors, le serviteur s'empressa de lire tout ce qu'avaient rapporté les mines de fer d'Annaba, les pêcheries de corail, les fabriques de pourpre, la ferme de l'impôt sur les Grecs domiciliés, l'exportation de l'argent en Arabie où il valait 10 fois l'or, les prises des vaisseaux, déduction faite du 10e pour le temple de la déesse. « Chaque fois j'ai déclaré 1/4 de moins, maître. » Hamilcar comptait avec les billes. Elles sonnaient sous ses doigts. « Assez. Qu'as-tu payé ? » À Stratinoclès de Corinthe et à 3 marchands d'Alexandrie sur les lettres que voilà. Elles sont rentrées, 10 000 drachmes athéniennes et 12 talents d'or syrien. La nourriture des équipages s'élevant à 20 mines par mois pour une trirème. Je le sais. Combien de perdus? En voici le compte sur ces lames de plomb, dit l'intendant. Quant aux navires nolisés en commun, comme il a fallu souvent jeter les cargaisons à la mer, on a réparti les pertes inégales par tête d'associés. Pour des cordages empruntés aux arsenaux et qu'il a été impossible de leur rendre, les Sicites ont exigé 800 késitas avant l'expédition d'Utique. Encore eux, fit Hamilcar en baissant la tête, et il resta quelque temps écrasé par le poids de toutes les haines qu'il sentait sur lui. Mais je ne vois pas les dépenses de Mégara. Abdalonim, en pâlissant, alla prendre, dans un autre casier, des planchettes de sycomore enfilées par paquets à des cordes de cuir. Hamilcar l'écoutait, soucieux des détails domestiques, et s'apaisant à la monotonie de cette voix qui énumérait des chiffres. Abdalonim se ralentissait. Tout à coup, il laissa tomber par terre les feuilles de bois, et il se jeta lui-même à plat ventre, les bras étendus, dans la position des condamnés. Hamilcar, sans s'émouvoir, ramassa les tablettes. Et ses lèvres s'écartèrent et ses yeux s'agrandirent lorsqu'il aperçut, à la dépense d'un seul jour, une exorbitante consommation de viande, de poissons, d'oiseaux, de vins et d'aromates, avec des vases brisés, des esclaves morts, des tapis perdus. Abdalonim, toujours prosterné, lui apprit le festin des barbares. Il n'avait pu se soustraire à l'ordre des anciens. Salammbô, d'ailleurs, voulant qu'on leur prodiguât l'argent pour mieux recevoir les soldats. Au nom de sa fille, Hamilcar se leva d'un bond. Puis, en serrant les lèvres, il s'accroupit sur les coussins. Il en déchirait les franges avec ses ongles, haletant, les prunelles fixes. « Lève-toi » dit-il. Et il descendit. Abdalonim le suivait. Ses genoux tremblaient. Mais, saisissant une barre de fer, il se mit comme un furieux à desceller les dalles. Un disque de bois sauta, et bientôt parurent sur la longueur du couloir plusieurs de ces larges couvercles qui bouchaient les fosses où l'on conservait le grain. « Tu le vois, œil de Baal, » dit le serviteur en tremblant. « Ils n'ont pas encore tout pris, et elles sont profondes, chacune, de 50 coudées, et comblent jusqu'au bord. Pendant ton voyage, j'en ai fait creuser dans les arsenaux, dans les jardins, partout. Ta maison est pleine de blé, comme ton cœur de sagesse. » Un sourire passa sur le visage d'Hamilcar. « C'est bien, Abdalonim. » Puis se penchant à son oreille. « Tu en feras venir de l'Étrurie, du Brucium, d'où il te plaira, et à n'importe quel prix. Entasse et garde, il faut que je possède, à moi seul, tout le blé de Carthage. » Quand ils furent à l'extrémité du couloir, Abdalonim, avec une des clés qui pendait à sa ceinture, ouvrit une grande chambre quadrangulaire divisée au milieu par des piliers de cèdre. Des monnaies d'or, d'argent et d'airain, disposées sur des tables ou enfoncées dans des niches, montaient le long des 4 murs jusqu'aux lambourdes du toit. D'énormes couffes en peau d'hippopotame supportaient, dans les coins, des rangs entiers de sacs plus petits. Des tas de billons faisaient des monticules sur les dalles, et, çà et là, quelques piles trop hautes, s'étant écroulées, avaient l'air d'une colonne en ruine. Les grandes pièces de Carthage, représentant Tanit avec un cheval sous un palmier, se mêlaient à celles des colonies, marquées d'un taureau, d'une étoile, d'un globe ou d'un croissant. Puis, l'on voyait disposer, par somme inégale, des pièces de toutes les valeurs, de toutes les dimensions, de tous les âges, depuis les vieilles d'Assyrie, minces comme l'ongle, jusqu'aux vieilles du Latium, plus épaisses que la main, avec les boutons d'Égine, les tablettes de la Bactriane, les courtes tringles de l'ancienne Lacédémone. Plusieurs étaient couvertes de rouille, encrassées, verdies par l'eau ou noircies par le feu, ayant été prises dans des filets ou après des sièges parmi les décombres des villes. Le suffète eut bien vite supputé si les sommes présentes correspondaient aux gains et aux dommages qu'on venait de lui dire. Il s'en allait lorsqu'il aperçut 3 jarres d'airain complètement vides. Abdalonim détourna la tête en signe d'horreur. Hamilcar, résigné, ne parla point. Ils traversèrent d'autres couloirs, d'autres salles, et arrivèrent enfin devant une porte où, pour la garder mieux, un homme était attaché par le ventre à une longue chaîne scellée dans le mur, coutume des Romains nouvellement introduite à Carthage. Sa barbe et ses ongles avaient démesurément poussé et il se balançait de droite et de gauche avec l'oscillation continuelle des bêtes captives. Sitôt qu'il reconnut Hamilcar, il s'élança vers lui en criant « Grâce, œil de Baal ! Pitié, tue-moi ! Voilà 10 ans que je n'ai vu le soleil ! Au nom de ton père, grâce !» Hamilcar, sans lui répondre, frappa dans ses mains. 3 hommes parurent, et tous les 4 à la fois, en raidissant leurs bras, ils retirèrent de ses anneaux la barre énorme qui fermait la porte. Hamilcar prit un flambeau et disparut dans les ténèbres. C'était, croyait-on, l'endroit des sépultures de la famille, mais on n'eût trouvé qu'un large puits. Il était creusé seulement pour dérouter les voleurs et ne cachait rien. Hamilcar passa auprès, puis, en se baissant, il fit tourner sur ses rouleaux une meule très lourde. Et, par cette ouverture, il entra dans un appartement bâti en forme de cône. Des écailles d'airain couvraient les murs. Au milieu, sur un piédestal de granit, s'élevait la statue d'un kabyr avec le nom d'Alet, inventeur des mines dans la Celtibérie. Contre sa base, par terre, étaient disposés en croix de larges boucliers d'or et des vases d'argent monstrueux, à goulots fermés, d'une forme extravagante et qui ne pouvaient servir, car on avait coutume de fondre ainsi des quantités de métal pour que les dilapidations et même les déplacements fussent presque impossibles. Avec son flambeau, il alluma une lampe de mineur fixée au bonnet de l'idole. Des feux verts, jaunes, bleus, violets, couleur de vin, couleur de sang, tout à coup illuminèrent la salle. Elle était pleine de pierreries qui se trouvaient dans des calebasses d'or, accrochées comme des lampadaires aux lames d'airain ou dans leurs blocs natifs, rangés au bas du mur. C'étaient des calaïs arrachés des montagnes à coups de fronde, des escarboucles formés par l'urine des lynx, des glossopètres tombés de la lune, des tianos, des diamants, des sandastrums, des béryls, avec les 3 espèces de rubis, les 4 espèces de saphir et les 12 espèces d'émeraude. Elles fulguraient, pareilles à des éclaboussures de lait, à des glaçons bleus, à de la poussière d'argent, et jetaient leur lumière en nappes, en rayons, en étoiles. Les séronies, engendrées par le tonnerre, étincelaient près des chalcédoines qui guérissent des poisons. Il y avait des topazes du mont Zabarka pour prévenir les terreurs, des opales de la Bactriane qui empêchent les avortements et des cornes d'Amon que l'on place sous les lits afin d'avoir des songes. Les feux des pierres et les flammes de la lampe se miraient dans les grands boucliers d'or. Hamilcar, debout, souriait, les bras croisés. Il se délectait moins dans le spectacle que dans la conscience de ses richesses. Elles étaient inaccessibles, inépuisables, infinies. Ses aïeux, dormant sous ses pas, envoyaient à son cœur quelque chose de leur éternité. Il se sentait tout près des génies souterrains. C'était comme la joie d'un kabyr. Et des grands rayons lumineux frappant son visage lui semblaient l'extrémité d'un invisible réseau qui, à travers des abîmes, l'attachait au centre du monde. Une idée le fit tressaillir, et s'étant placé derrière l'idole, il marcha droit vers le mur. Puis il examina, parmi les tatouages de son bras, une ligne horizontale avec 2 autres perpendiculaires, ce qui exprimait, en chiffres cananéens, le nombre 13. Alors, il compta jusqu'à la 13e des plaques d'airain, releva encore une fois sa large manche, et la main droite étendue, il lisait à une autre place de son bras d'autres lignes plus compliquées, tandis qu'il promenait ses doigts délicatement, à la façon d'un joueur de lyre. Enfin, avec son pouce, il frappa 7 coups, et, d'un seul bloc, toute une partie de la muraille tourna. Elle dissimulait une sorte de caveau où étaient enfermées des choses mystérieuses qui n'avaient pas de nom et d'une incalculable valeur. Hamilcar descendit les 3 marches. Il prit dans une cuve d'argent une peau de lama flottant sur un liquide noir, puis il remonta. Abdalonim se remit alors à marcher devant lui. Il frappait les pavés avec sa haute canne garnie de sonnettes au pommeau et, devant chaque appartement, criait le nom d'Hamilcar, entouré de louanges et de bénédictions. Dans la galerie circulaire, où aboutissaient tous les couloirs, on avait accumulé le long des murs des poutrelles d'alumina, des sacs de lausonia, des gâteaux en terre de lemnos et des carapaces de tortues toutes pleines de perles. Le suffète, en passant, les effleurait avec sa robe, sans même regarder de gigantesques morceaux d'ambre, matière presque divine formée par les rayons du soleil. Un nuage de vapeur odorante s'échappa. « Pousse la porte !» Ils entrèrent. Des hommes nus pétrissaient des pâtes, broyaient des herbes, agitaient des charbons, versaient de l'huile dans des jarres, ouvraient et fermaient les petites cellules ovoïdes creusées tout autour de la muraille et si nombreuses que l'appartement ressemblait à l'intérieur d'une ruche. Du myrobalane, du bdellium, du safran et des violettes en débordaient. Partout étaient éparpillées des gommes, des poudres, des racines, des fioles de verre, des branches de filipendule, des pétales de rose. Et l'on étouffait dans les senteurs, malgré les tourbillons du styrax qui grésillait au milieu sur un trépied d'airain. Le chef des odeurs suaves, pâle et long comme un flambeau de cire, s'avança vers Hamilcar pour écraser dans ses mains un rouleau de métopion, tandis que deux autres lui frottaient les talons avec des feuilles de baccharis. Il les repoussa. C'étaient des cyrénéens de mœurs infâmes, mais que l'on considérait à cause de leurs secrets. Afin de montrer sa vigilance, le chef des odeurs offrit au suffète, sur une cuillère d'électrum, un peu de malobâtre à goûter. Puis, avec une haleine, il perça trois bézoards indiens. Le maître, qui savait les artifices, prit une corne pleine de baume, et, l'ayant approchée des charbons, il la pencha sur sa robe. Une tache brune y parut. C'était une fraude. Alors, il considéra le chef des odeurs fixement, et sans rien dire, lui jeta la corne de gazelle en plein visage. Si indigné qu'il fût des falsifications commises à son préjudice, en apercevant des paquets de nards qu'on emballait pour les pays d'outre-mer, il ordonna d'y mêler de l'antimoine, afin de le rendre plus lourd. Puis, il demanda où se trouvaient trois battes de psaga, destinées à son usage. Le chef des odeurs avoua qu'il n'en savait rien. Des soldats étaient venus avec des couteaux, en hurlant. Il leur avait ouvert les cases. « Tu les crains donc plus que moi ?» s'écria le suffète. Et, à travers la fumée, ses prunelles, comme des torches, étincelaient sur le grand homme pâle qui commençait à comprendre. Abdalonim, avant le coucher du soleil, tu le feras passer par les verges. Déchire-le. Ce dommage, moindre que les autres, l'avait exaspéré, car, malgré ses efforts pour les bannir de sa pensée, il retrouvait continuellement les barbares. Leur débordement se confondait avec la honte de sa fille, et il en voulait à toute la maison de la connaître et de ne pas la lui dire. Mais quelque chose le poussait à s'enfoncer dans son malheur. Et, pris d'une rage d'inquisition, il visita, sous les hangars, derrière la maison de commerce, les provisions de bitume, de bois, d'encre et de cordage, de miel et de cire, le magasin des étoffes, les réserves de nourriture, le chantier des marbres, le grenier du silphium. Il alla, de l'autre côté des jardins, inspecter, dans leurs cabanes, les artisans domestiques dont on vendait les produits. Des tailleurs brodaient des manteaux, d'autres tressaient des filets, d'autres peignaient des coussins, découpaient des sandales. Des ouvriers d'Égypte, avec un coquillage, polissaient des papyrus. La navette des tisserands claquait, les enclumes des armuriers retentissaient. Hamilcar leur dit « Battez des glaives, battez toujours, il m'en faudra !» Et il tira de sa poitrine la peau d'antilope macérée dans les poisons pour qu'on lui taillât une cuirasse plus solide que celle des reins et qui serait inattaquable au fer et à la flamme. Dès qu'il abordait les ouvriers, Abdalonim, afin de détourner sa colère, tâchait de l'irriter contre eux en dénigrant leurs ouvrages par des murmures. « Quelle besogne! C'est une honte! Vraiment, le maître est trop bon !» Hamilcar, sans l'écouter, s'éloignait. Il se ralentit, car de grands arbres calcinés d'un bout à l'autre, comme on en trouve dans les bois où les pasteurs ont campé, barraient les chemins. Et les palissades étaient rompues, l'eau des rigoles se perdait, des éclats de verre, des ossements de singes apparaissaient au milieu des flaques bourbeuses. Quelques bribes d'étoffe pendaient çà et là aux buissons. Sous les citronniers, les fleurs pourries faisaient un fumier jaune. En effet, les serviteurs avaient tout abandonné, croyant que le maître ne reviendrait plus. À chaque pas, ils découvraient quelque désastre nouveau, une preuve encore de cette chose qu'ils s'étaient interdit d'apprendre. Voilà maintenant qu'ils souillaient ces brodequins de pourpre en écrasant des immondices. Et il ne tenait pas ses hommes, tous devant lui, au bout d'une catapulte, pour les faire voler en éclats. Il se sentait humilié de les avoir défendus. C'était une duperie, une trahison. Et, comme il ne pouvait se venger ni des soldats, ni des anciens, ni de Salammbô, ni de personne, et que sa colère cherchait quelqu'un, il condamna aux mines, d'un seul coup, tous les esclaves des jardins. Abdalonim frissonnait chaque fois qu'il le voyait se rapprocher des parcs. Mais Hamilcar prit le sentier du moulin, d'où l'on entendait sortir une mélopée lugubre. Au milieu de la poussière, les lourdes meules tournaient, c'est-à-dire deux cônes de porphyre superposés, et dont le plus haut, portant un entonnoir, virait sur le second à l'aide de fortes barres. Avec leurs poitrines et leurs bras, des hommes poussaient, tandis que d'autres, attelés, tiraient. Le frottement de la bricole avait formé autour de leurs aisselles des croûtes purulentes comme on en voit au garrot les ânes, et le haillon noir et flasque qui couvrait à peine leurs reins, en pendant par le bout, battait sur leurs jarrets comme une longue queue. Leurs yeux étaient rouges, les fers de leurs pieds sonnaient, toute leur poitrine haletait d'accord. Ils avaient sur la bouche une muselière pour qu'il leur fût impossible de manger la farine, et des gantelets sans doigts enfermaient leurs mains pour les empêcher d'en prendre. À l'entrée du maître, les barres de bois craquèrent plus fort. Le grain, en se broyant, grinçait. Plusieurs tombèrent sur les genoux. Les autres, continuant, passaient par-dessus. Il demanda Jidenem, le gouverneur des esclaves. Et ce personnage parut, étalant sa dignité dans la richesse de son costume, car sa tunique, fendue sur les côtés, était de pourpre fine, de lourds anneaux tiraient ses oreilles, et, pour joindre les bandes d'étoffe qui enveloppaient ses jambes, un lacet d'or, comme un serpent autour d'un arbre, montait de ses chevilles à ses hanches. Il tenait dans ses doigts, tout chargé de bagues, un collier en grains de gajate pour reconnaître les hommes sujets au mal sacré. Hamilcar lui fit signe de détacher les muselières. Alors tous, avec des cris de bêtes affamées, se ruèrent sur la farine qu'ils dévoraient en s'enfonçant le visage dans l'état. « Tu les exténues !» dit le suffète. Jidenem répondit qu'il fallait cela pour les dompter. Ce n'était guère la peine de t'envoyer à Syracuse dans l'école des esclaves. Fais venir les autres. Et les cuisiniers, les sommeliers, les palefreniers, les coureurs, les porteurs de litières, les hommes des étuves et les femmes avec leurs enfants, tous se rangèrent dans le jardin sur une seule ligne, depuis la maison de commerce jusqu'au parc des bêtes fauves. Ils retenaient leur haleine. Un silence énorme emplissait Mégara. Le soleil s'allongeait sur la lagune, au bas des catacombes. Les pans piaulaient. Hamilcar, pas à pas, marchait. « Qu'ai-je à faire de ces vieux ? » dit-il. « Vends-les. C'est trop de Gaulois. Ils sont ivrognes. Et trop de Crétois. Ils sont menteurs. Achète-moi des Cappadociens, des Asiatiques et des Nègres. » Il s'étonna du petit nombre des enfants. « Chaque année, Jidenem, la maison doit avoir des naissances. Tu laisseras toutes les nuits les cases ouvertes pour qu'ils se mêlent en liberté. » Il se fit montrer ensuite les voleurs, les paresseux, les mutins. Il distribuait des châtiments avec des reproches à Jidenem. Et Jidenem, comme un taureau, baissait son front bas où s'entrecroisaient deux larges sourcils. « Tiens, œil de Baal, dit-il en désignant un Libyen robuste. En voilà un que l'on a surpris la corde au cou. « Ah, tu veux mourir ?» fit dédaigneusement le suffète, et l'esclave d'un ton intrépide. « Oui !» Alors, sans se soucier de l'exemple ni du dommage pécuniaire, Hamilcar dit au valet « Emportez-le » Peut-être y avait-il dans sa pensée l'intention d'un sacrifice. C'était un malheur qu'il s'infligeait afin d'en prévenir de plus terrible. Giddenem avait caché les mutilés derrière les autres. Hamilcar les aperçut. « Qui t'a coupé le bras, à toi ?»« Les soldats, œil de Baal. » Puis, à un Samnite qui chancelait comme un héron blessé. « Et toi, qui t'a fait cela ?» C'était le gouverneur, en lui cassant la jambe avec une barre de fer. Cette atrocité imbécile indigna le suffète, et, arrachant des mains de Giddenem son collier de gageate, malédiction aux chiens qui blessent le troupeau, estropié des esclaves, bonté de Tanit. Ah, tu ruines ton maître, qu'on l'étouffe dans le fumier. Et ceux qui manquent, où sont-ils? Les as-tu assassinés avec les soldats? Sa figure était si terrible que toutes les femmes s'enfuirent. Les esclaves, se reculant, faisaient un grand cercle autour d'eux. Giddenem baisait frénétiquement ses sandales. Hamilcar, debout, restait les bras levés sur lui. Mais, l'intelligence lucide comme au plus fort des batailles, il se rappelait mille choses odieuses, les ignominies dont il s'était détourné, et, à la lueur de sa colère, comme une fulguration d'un orage, il revoyait d'un seul coup tous ses désastres à la fois. Les gouverneurs des campagnes avaient fui par terreur des soldats, par connivence peut-être, tous le trompaient. Depuis trop longtemps, il se contenait. « Qu'on les amène » cria-t-il, « et marquez-les au front avec des fers rouges, comme des lâches !» Alors on apporta et l'on répandit au milieu du jardin des entraves, des carcans, des couteaux, des chaînes pour les condamnés aux mines, des cippes qui serraient les jambes, des numellas qui enfermaient les épaules et des scorpions, fouets à triple lanière, terminés par des griffes en airain. Tous furent placés la face vers le soleil, du côté de Moloch dévorateur, étendus par terre sur le ventre ou sur le dos, et les condamnés à la flagellation, debout contre les arbres, avec deux hommes auprès d'eux, un qui comptait les coups et un autre qui frappait. Ils frappaient à deux bras. Les lanières en sifflant faisaient voler l'écorce des platanes. Le sang s'éparpillait en pluie dans les feuillages, et des masses rouges se tordaient au pied des arbres en hurlant. Ceux que l'on ferrait s'arrachaient le visage avec les ongles. On entendait les vis de bois craquer. Des heurts sourds retentissaient. Parfois, un cri aigu, tout à coup, traversait l'air. Du côté des cuisines, entre des vêtements en lambeaux et des chevelures abattues, des hommes, avec des éventails, avivaient des charbons, et une odeur de chair qui brûle passait. Les flagellés défaillants, mais retenus par les liens de leurs bras, roulaient leurs têtes sur leurs épaules en fermant les yeux. Les autres, qui regardaient, se mirent à crier d'épouvante, et les lions, se rappelant peut-être le festin, s'allongeaient en bâillant contre le bord des fosses. On vit alors Salammbô sur la plateforme de sa terrasse. Elle la parcourait rapidement, de droite et de gauche, toute effarée. Hamilcar l'aperçut. Il lui sembla qu'elle levait les bras de son côté pour demander grâce. Avec un geste d'horreur, il s'enfonça dans le parc des éléphants. Ces animaux faisaient l'orgueil des grandes maisons puniques. Ils avaient porté les aïeux, triomphé dans les guerres, et on les vénérait comme favoris du soleil. Ceux de Mégara étaient les plus forts de Carthage. Hamilcar, avant de partir, avait exigé d'Abdalonim le serment qu'il les surveillerait. Mais ils étaient morts de leur mutilation, et trois seulement restés, couchés au milieu de la cour, sur la poussière, devant les débris de leur mangeoire. Ils le reconnurent et vinrent à lui. L'un avait les oreilles horriblement fendues. L'autre, au genou, une large plaie, et le troisième, la trompe coupée. Cependant, ils le regardaient d'un air triste, comme des personnes raisonnables. Et celui qui n'avait plus de trompe, en baissant sa tête énorme et pliant les jarrets, tâchait de le flatter doucement avec l'extrémité hideuse de son moignon. À cette caresse de l'animal, deux larmes lui jaillirent des yeux. Il bondit sur Abdalonim. « Ah, misérable ! La croix ! La croix !» Abdalonim, s'évanouissant, tomba par terre à la renverse. Derrière les fabriques de pourpre, dont les lentes fumées bleues montaient dans le ciel, un aboiement de chacal retentit. Hamilcar s'arrêta. La pensée de son fils, comme l'attouchement d'un dieu, l'avait tout à coup calmé. C'était un prolongement de sa force, une continuation indéfinie de sa personne qu'il entrevoyait. Et les esclaves ne comprenaient pas d'où lui était venu cet apaisement. En se dirigeant vers les fabriques de pourpre, il passa devant l'ergastule, longue maison de pierre noire, bâtie dans une fosse carrée, avec un petit chemin tout autour et quatre escaliers aux angles. Pour achever son signal, Iddibal sans doute attendait la nuit. « Rien ne presse encore », songeait Hamilcar, et il descendit dans la prison. Quelques-uns lui crièrent « Retourne !» Les plus hardis le suivirent. La porte ouverte battait au vent. Le crépuscule entrait par les meurtrières étroites, et l'on distinguait dans l'intérieur des chaînes brisées pendant au mur. Voilà tout ce qui restait des captifs de guerre. Hamilcar pâlit extraordinairement, et ceux qui étaient penchés en dehors sur la fosse le virent qui s'appuyait d'une main contre le mur pour ne pas tomber. Mais le chacal, trois fois de suite, cria. Hamilcar releva la tête. Il ne proféra pas une parole. Il ne fit pas un geste. Puis, quand le soleil fut complètement couché, il disparut derrière la haie de Nopal, et le soir, à l'assemblée des riches, dans le temple d'Eshmoun, il dit en entrant « Lumière des Balim, j'accepte le commandement des forces puniques contre l'armée des barbares. » Fin de la section 8.
Over the last 75 years, over 10,000 chemicals have been introduced to our food supply. Yet the EU only allows 300 food additives. But at Thrive Market, we bring our members the highest quality brands and restrict more than 1,000 ingredients found at conventional grocery stores. Making the switch is easy with our Healthy Swaps scanner, which finds better versions of all your favorite pantry, snacking, and home essentials without the added junk, dyes, and fillers. Plus, it's all delivered straight to your door. So if you're looking to shop at a grocery store that actually cares about your health, go to thrivemarket.com/podcast and you'll get 30% off your first order and a free gift.
New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.